Bonjour les amis, on fait l'entretien de 10 000 ans. Hein. Christine qui vient régulièrement, hein. C'est ton 40e bouquin, Christine Calonne.
Dixième.
Ouais. Donc les intelligences à haut potentiel, ouais. Alors, je rappelle que tu es psychologue, psychothérapeute, spécialisé dans l'aide aux victimes de pervers narcissiques, on va en parler aussi. Tu accompagnes également les personnes à haut potentiel, tout le monde est haut potentiel, dans le traitement de leur traumatisme ou la découverte d'elles-mêmes. Alors j'ai l'impression que tout le monde veut devenir haut potentiel, hein. C'est quoi un vrai haut potentiel intellectuel? Comment est-ce qu'on le reconnaît?
Ouais, la définition d'un haut potentiel, c'est quelqu'un qui a une vitesse de pensée, une puissance mentale qui se caractérise par la rapidité des apprentissages. Et donc, c'est surtout une dimension intellectuelle. Maintenant, évidemment, ça s'accompagne de caractéristiques comme, par exemple, la métacognition, la capacité à penser ses pensées.
La métacognition, attends.
Métacognition, donc être en position méta par rapport à ses pensées.
D'accord.
Ce qui permet d'éviter des biais cognitifs, par exemple, comme le fait de, finalement, chercher à vérifier ses croyances plutôt que d'expérimenter. Ça, c'est une des caractéristiques. La pensée en arborescence, qu'on appelle aussi pensée divergente, c'est une capacité à faire des liens entre des différents domaines, différentes choses.
Ça, c'est moi.
Voilà, donc penser en arborescence. On a aussi la créativité, l'humour. Ce sont des caractéristiques.
Voilà. Mais comment est-ce qu'on reconnaît? Est-ce qu'on ne devrait pas, tous les enfants, leur faire passer un test à un moment donné? Je ne sais pas quel est l'âge le plus adéquat. Comment on est certain?
Tout à fait. Oui.
À quel âge est-on certain que c'est un HP?
Bon, donc, si on, à un moment donné, on s'interroge sur soi-même ou sur son enfant, le mieux, c'est de faire un test de QI qui va vérifier si réellement on a un haut potentiel intellectuel ou pas.
Donc, ça, on doit demander au centre PMS, c'est ça? Et là, voilà. c'est un peu le bordel.
Les neuropsychologues font passer des tests. Il y a des centres spécialisés pour diagnostiquer les hauts potentiels.
Voilà, quand on a un enfant haut potentiel, même pas grave. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelques instituts qui se préparent à ça, c'est ça?
Alors, on a une image du haut potentiel qui est un individu fragile émotionnellement, qui est isolé, qui ne s'intègre pas. Ça, c'est tout à fait faux. C'est vrai quand il y a un trouble de la personnalité qui accompagne le haut potentiel.
D'accord. Donc, ça veut dire que le bouquin, c'est sans questions-réponses, donc on y retrouve tout. Hein. Donc, si on a un doute, on va lire ça calmement dans les toilettes pour ne pas que personne ne le voit. Donc, c'est un peu ça. Et puis, on va parler aussi quelles sont les personnalités. Maintenant, il y a des feuilletons sur TF1 qui racontent les HP. Dans le monde de la police, tout le monde est HP. Les médecins sont HP, good doctor. Donc, c'est partout pour l'instant, je trouve, non?
Oui, évidemment, quand vous avez des individus qui ont une pathologie narcissique et qui vont utiliser le haut potentiel pour se faire valoir, évidemment, ça, c'est le bon moyen, donc, c'est de se dire qu'on est au potentiel sans même s'être fait tester. Donc, ça, c'est important de voir.
Il y a des usurpateurs, je veux dire,
bien sûr,
dans ce cadre-là. Et puis, on va parler du pervers narcissique, parce que le pervers narcissique, il aime bien, évidemment, les hauts potentiels. Hein. Donc, cible favorite, je crois.
C'est-à-dire que si vous avez un haut potentiel qui, en plus, a de l'hypersensibilité et qui focalise ses pensées sur les émotions, ses émotions, celles des autres, il est évidemment une proie facile pour un pervers narcissique, puisqu'à ce moment-là, il va être exploité plus facilement par son empathie et par sa disponibilité.
Christine Calonne, un dernier bouquin qui s'appelle « 100 questions-réponses, des intelligences à haut potentiel » aux éditions Ellipse. Alors, il y a une couverture d'Émilie Darré. C'est quoi le choix? On voit une espèce de lutin au milieu de deux personnes, une personne clairement plus âgée, puis une jeune fille. C'est quoi le choix?
C'est pas moi qui ai choisi, donc c'est l'éditeur. Je ne sais pas pourquoi il a fait ce choix. Je ne lui ai pas demandé.
Merde, pourquoi je pose la question? Je me dis, il doit y avoir plein de choses. Il y a une map monde, il y a un parapluie. Je me dis, il doit y avoir plein de choses. Dans ce que tu fais, ton travail, c'est d'accompagner les gens. Est-ce que tu sens qu'on va vers une dérive plus importante qu'avant, liée à un climat plus anxiogène, par exemple?
Bien sûr, oui. Hein. Oui, donc depuis le confinement, il y a eu vraiment une explosion des personnes qui sont dans un état anxieux, dans un état dépressif. Et donc, oui, il y a beaucoup plus de demandes d'accompagnement, c'est sûr.
Si je dois prendre rendez-vous chez toi pour une urgence, j'ai une place dans combien de temps? Dans novembre?
Au
moins, donc c'est ça, c'est ça le problème. Donc on sait que dans le côté psychiatrique, il n'y a pas suffisamment d'aide, on ne suit pas. Donc comment on peut résoudre ça? Selon toi, donc tu serais ministre de la Santé, voilà, je t'arroge le droit de l'être. Qu'est-ce que tu déciderais, par exemple, à ce niveau-là?
Oui, je pense que c'est important d'aider les psychothérapeutes qui peuvent accompagner les gens et donc donner des subsides, favoriser l'accompagnement au niveau de l'accessibilité des soins. Ça, c'est sûr que ce serait bien. Hein.
Alors, moi, j'adore, je rêve tout haut. Et la dernière question, c'est pourquoi rêver contribue à l'épanouissement du HP?
Ah, oui.
Donc, il faut rêver éveillé, c'est ça?
Mais voilà, c'est la capacité finalement chez le haut potentiel à être dans la conscience de soi. Et donc cette conscience, cette métacognition, elle peut être accompagnée d'une possibilité d'imaginer quelque chose de meilleur pour soi. Et donc c'est la capacité de toute personne finalement qui médite, qui est dans la capacité à imaginer son présent, son futur. Et donc cette capacité de méditation, c'est quelque chose de très positif, qui permet de créer, hein, parce que dans la méditation, on a une potentialité créatrice bien supérieure, on mobilise d'autres zones du cerveau, et ça, quand on mobilise d'autres zones du cerveau, on a des nouvelles idées, beaucoup plus innovantes,
petit
ça c'est très
petit
positif.
Voyage intérieur, et puis on arrive à parler tout seul, non, aussi, quand on se
aussi.
Balade, voilà, à se raconter une histoire. Mais moi j'aime bien, donc c'est ce côté-là. Donc on est dans un univers incroyable, avec Christine Callon, on va parler... on va continuer à parcourir un peu ce bouquin. On pourrait passer des heures à acheter-le. De toute façon, c'est un bouquin qui se lit question par question. Hein, donc, c'est ça qui est important.
Oui.
On peut le lire en fréquencé, comme on dit. Hein.
Absolument. Hein, on passe d'un sujet à l'autre quand on en a besoin. C'est ça qui est très intéressant.
Ouais, bah, très bien. On va parler de burn-out aussi. Hein,
oui.
Parce que sensible.
Oui.
Le burn-out, c'est aussi la maladie, je vais presque dire à la mode, hein, malheureusement, parce qu'on en entend beaucoup. Hein. Alors, quelle phase traverse le sujet HPI? En burn-out ou en burn-out, c'est plus compliqué pour lui?
Oui, parce que souvent, il a donné beaucoup de lui-même au niveau, par exemple, professionnel. Mmh. Et donc, il a une difficulté à reconnaître qu'il a atteint ses limites. Et donc, ça, c'est important de reconnaître ses limites. Et souvent, il y a un déni dans un premier temps qui fait que on va recourir à des adjuvants pour essayer de tenir le coup. Et c'est pas bon, justement, on va encore plus entamer sur ses réserves. Et à un moment donné, on plonge dans la deuxième phase qui est vraiment un désert énergétique, un désert psychologique. On est de plus en plus déshumanisé, dépersonnalisé. Mmh. Et donc là, vraiment, il y a une remise en question obligatoire qui doit se faire et qui amène à la troisième phase qui est vraiment l'acceptation de son état de burn-out. Et dans cette acceptation, on peut justement s'autoriser à se reposer, à accéder à des ressources. Et grâce à cela, finalement, se poser des questions sur le sens de sa vie. Est-ce qu'on est vraiment dans le métier qui nous convient? Est-ce que, finalement, on n'a pas investi une passion qui est caractéristique de son haut potentiel? Parce que le haut potentiel peut s'être suradapté durant l'enfance et finalement avoir opté pour un métier qui ne correspond pas vraiment à ce qu'il est. Et donc, ça, c'est le cas si son intelligence à haut potentiel n'a pas été reconnue. Et donc, finalement, il va opter pour un métier qui correspond plus au choix des parents ou d'un professeur, je ne sais pas quoi. Et donc, finalement, ça amène des comportements compensatoires, surinvestir professionnellement pour se suradapter. Et si l'environnement professionnel encourage ça, on est dans une culture de la performance, on en arrive au burn-out. Et donc, la dernière étape, finalement, c'est l'exploration de ces nouvelles possibilités qui correspondent beaucoup plus à ce que l'on est. Et cette phase exploratoire est très positive puisqu'elle peut amener à une réorientation professionnelle.
On pourrait t'écouter pendant des heures. Pour terminer avec un peu de mathématiques, 2%, 2,3% sont HPI.
Oui.
Et on estime qu'il y a 5% de pervers narcissiques. Donc il y a 2 pervers narcissiques pour un HPI, c'est ça qu'on dit?
Alors bon, voilà, dire qu'il y a 5% de pervers narcissiques, voilà, c'est les consultations en psychiatrie. Or, les pervers narcissiques consultent rarement en psychiatrie puisqu'ils rendent les autres malades, mais eux, ils vont très bien. Ouais. Donc,
et en plus, il y a le premier métier dans lequel il y a des pervers narcissiques, c'est dans la médecine.
Oui, soins
avocat.
Aux autres, voilà. Ils ont ainsi un pouvoir sur les autres. Et donc, on sous-estime le pourcentage, on ne peut pas donc tirer de conclusion là-dessus.
Très bien. Comment est-ce que la dernière phrase dire pourquoi il faut acheter ton livre?
Eh bien, justement, parce qu'il y a plein d'a priori sur les hauts potentiels et que mon livre essaie justement de clarifier les choses et de redéfinir, selon les dernières recherches en psychologie, ce qu'est réellement un haut potentiel à partir des études sur la population générale. Et on conclut finalement que les hauts potentiels n'ont pas plus de problèmes psychologiques et émotionnels que les autres. Par contre, si ça s'accompagne de problèmes relationnels, de troubles de la personnalité, de conflits familiaux, oui, évidemment, alors là, c'est sûr qu'on on a une obligation de consulter pour pouvoir finalement vivre au mieux son potentiel et s'épanouir.
Tu es auteur, autrice, qu'est-ce que tu préfères? Auteur.
Autrice.
Autrice. Et très bien, on peut te retrouver. Puis on peut te retrouver chez toi, hein, j'imagine, ouais, sur les réseaux sociaux.
C'est sûr.
Christine Calonne.
Voilà, j'ai un site internet aussi, voilà, psychothérapie-calonne.be.
Et si vous ne l'avez pas trouvé passionnant, franchement, j'ai un problème pour vous, les amis. Donc, intéressez-vous à cette femme parce qu'elle s'intéresse à vous. C'est ça, on peut dire ça?
Merci, oui, c'est tout à fait ça.
Merci, Christine.